Quelle assurance, je suis sauvé.
Ce matin, à ceux qui nous visitent, qui étaient en vacances chez de la famille, soyez tous et toutes les bienvenus. Sentez-vous chez vous. N'oubliez pas que vous êtes chez nous. Mon thème ce matin, sans perdre de temps, je vais tout de suite vous dire, je me fixe une heure, midi moins le quart. D'accord? Comme ça, parce que si à 1h30 vous commencez à regarder votre pendule, moi ça me stresse et vous aussi. Si vous voulez passer un coup de fil pour dire que vous n'arriverez qu'un quart d'heure plus tard, vous pouvez le faire. Hein? Mon thème ce matin, sauver pour sauver. Dis à ton voisin, tu as été sauvé pour sauver. Tu as été sauvé pour sauver. Et au travers de ce message, je voudrais donner la ligne directrice que suivra l'Église pour l'année à venir. C'est une ligne que nous avons, certes, eh bien, en règle générale, toujours gardée. Mais je voudrais à nouveau eh bien, réinsister dessus et revenir à ce qui a toujours été ce que Dieu nous a demandé à la base. Dans sa grâce, le Seigneur nous a touchés. Le Seigneur nous a pardonnés et le Seigneur nous a sauvés. Et maintenant, point d'interrogation, sommes-nous appelés à vivre en vase clos entre chrétiens en essayant de faire le moins de péchés possible, de manière à être le plus saint possible jusqu'à ce que Jésus ou vienne nous chercher ou que nous soyons enlevés? Ou y a-t-il autre chose? Il me semble qu'il y a bien plus que cela, sans négliger ce que je viens de dire. Cet appel à la sanctification, nous l'avons entendu ce matin. Sans négliger la communion fraternelle, il y a une vision de Dieu pour un monde qui se perd. Et cette vision, il la partage avec chacun d'entre nous. Il y a trois hommes de Dieu qui ont marqué ma vie et mon ministère. Le premier, c'est Papa Jean. Il l'a marqué, il marque encore ma vie. Le second, c'est mon ami Reinhard Bonnke. Et je bénis Dieu pour tout ce que son ministère a eu comme impact dans ma vie. Et le troisième, ça a été Aldo Benzi. Tous les trois avaient une chose en commun, c'est la passion pour les hommes et les femmes qui sont perdus. Tous les trois ont une passion pour mon frère Feu Aldo. C'était une passion pour ceux eh bien, qui ne connaissent pas l'Évangile. À cet effet-là, je voudrais introduire ce matin mon propos par un film qu'a fait tourner mon ami et frère Reinhard Bonnke. Dans son ministère, Reinhard a amené au Seigneur, par des décisions, plus de 54 millions de personnes. Vous allez me dire, mais comment peut-on parler de 54 millions de personnes simplement parce qu'il y a eu 54 millions de cartons de décisions à suivre Jésus qui ont été remplis? Une passion pour Christ. Regardez bien le film, il vous aidera à entrer dans la prédication. Je demanderai juste à ce qu'on éteigne les lumières. Il s'intitule « Perdu en mer ». Merci à la sono et à la technique de me mettre tout en place. Merci d'éteindre les lumières, s'il vous plaît, quelqu'un qui est près du poste là-bas. Voilà. Stéphane, merci. Que le son soit assez fort pour que tout le monde entende bien. Merci.
Laissez-moi vous poser une question. Quelle est la priorité? Les équipements du navire, Et alors son but en général?
Je crois que le but de ce navire est très, très clair, monsieur.
Justement. Notre seul but devrait être très clair. Jack, nous allons vers des territoires dangereux et sans échappatoire. Cependant, l'intérieur de ce navire est un endroit très confortable. Et là réside votre choix. Vous vous jetez à l'eau, ou vous vous contentez d'étudier la possibilité de peut-être le faire.
Monsieur, il faut que j'y aille. Je suis de service à la soirée. Elle va commencer.
Jack, la soirée, elle est presque terminée.
Chers amis, à 21h45 précise, on commencera le culte.
Ils ne sont pas encore là! Laissez-moi la ligne de gardien, elle doit partir jusqu'en bas!
Comme ça!
Non! Il va pouvoir la relâcher du canot dès que son missile touchera l'eau!
C'est un compris!
Oui, comme ça!
Vous sentez?
Non, j'en sais rien, moi!
Oui, c'est ça! Non, il faut la relâcher quand elle touche l'eau!
Officier Burlo! Ouais, c'est pas trop tôt!
Jamais par tribord. Tout le concept pour ce nouveau canot est basé sur l'idée de hisser les gens par la poupe. Avec des creux de 4 mètres, vous voulez hisser les gens par la poupe, mais vous ne les atteindriez même pas. Croyez-moi, j'ai étudié ce machin pendant 3 semaines avec Burlo. J'ai appris tout le manuel. Je pense que vous feriez mieux d'aller réviser vos devoirs.
Vous êtes déjà monté dans ces nouveaux canots?
N'êtes-vous pas content de ne pas être dehors ce soir? Bon, c'est l'heure d'aller à l'église. Oui, c'est bien ça. Le Rosa Marie était en route depuis Vancouver et avait à bord 12 membres d'équipage et un total de 64 passagers. Pouvez-vous me donner des détails sur l'avancement de l'opération ?
Monsieur, ici le capitaine James Mayer des gardes-côtes. Vous et votre équipage, vous êtes sommés de mettre à l'eau tous vos canots de sauvetage et l'équipage nécessaire immédiatement. Est-ce que vous avez bien compris la situation ? Vous êtes leur seule chance.
L'image de Dieu en l'homme était une image d'amour. Jusqu'à ce que les tempêtes du péché rident la surface de l'eau, déformant le reflet. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Il a investi tout ce qu'il avait pour tous ceux qui ont jamais vécu. Au fil des siècles, des hommes et des femmes passionnés ont vécu et sont morts pour prêcher le Christ et son salut à toutes les tribus et à toutes les nations. L'amour de Dieu dans l'âme d'un homme est 100 fois plus beau et plus noble que tous les motifs qui l'ont jamais inspiré. Connaître cet amour de tous les amours est le secret de tous les secrets. Mon ami, je suis ici pour te dire ceci. L'Église de Jésus-Christ n'est pas un bateau de plaisance, mais un bateau de sauvetage en vue du salut d'âme. Chaque personne est nécessaire à bord.
Tout d'abord, je voudrais m'excuser pour le son. Tout a été testé ce matin, marché impeccablement. Est-ce que vous avez compris dans les grandes lignes ? L'Église de Christ n'est pas un bateau de plaisance. Je crois que Dieu donne les moyens à l'Église pour venir au secours d'un monde qui se perd. Et si l'Église ne le fait pas, la question se pose, qui le fera ? Et si nous n'allons pas annoncer cette bonne nouvelle, qui ira ? Choisissez-vous de rester à la réception et de faire un joli culte entre chrétiens dans l'intérieur protégé d'un confortable bateau, ou accepterez-vous de sortir de vos limites? C'est la question qui se pose à chacun d'entre nous et c'est la direction que nous aimerions donner à l'Église pour cette année. J'aimerais vous rappeler courtement la condition de l'homme. Premièrement, Romains 3, 23, vous connaissez ces textes par cœur. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et un peu plus loin, il nous est dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, ensemble ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Chers frères, chères sœurs, ce matin, des internautes me posaient la question, est-ce que l'homme est foncièrement mauvais? Eh bien, la Bible dit oui, que l'homme est foncièrement mauvais et pécheur. Il est perdu. Dans la sainteté et dans la communion avec Dieu, aucun ne pourra entrer qui n'aura passé par Jésus, aucun. Regardez vos familles, regardez vos amis, regardez vos voisins. Et dites-vous que le jour où ils partiront, s'ils n'ont pas reçu Jésus le Sauveur, ils partiront dans l'éternité, loin de Dieu. Pour l'instant, ils se noient. Pour l'instant, ils sont en dehors. Ils sont dans la tempête. Nous avons connu le salut. Nous avons eu accès à la grâce. Qu'allons-nous faire? Allons-nous continuer simplement à nous réjouir en vase clos? J'aimerais vous rappeler que l'évangile n'a jamais été fait pour les quatre murs d'une église. L'évangile a été fait pour que vous et moi, nous sortions annoncer cette bonne nouvelle à tous les hommes. L'état de tout homme et de toute femme sans Christ, c'est la perdition. Et je suis parfois surpris de voir le nombre de croyants qui ne sont plus conscients de cela, qui ont perdu cette vision-là, qui sont quasiment indifférents. On vit au milieu d'une société qui se perd, mais l'on n'est plus préoccupé par la perdition de cette société. Je vous l'avais dit, trois hommes ont marqué ma vie, et ils avaient tous une même passion, celle pour ces hommes et ces femmes qui se perdent. Deuxièmement, quelle est la volonté de Dieu pour l'homme? Est-ce que je pourrais juste demander à la sono, il y a un petit bzzz là, si on pouvait me l'enlever, merci. Ézéchiel 33, verset 11. Ce que je désire, et c'est l'Éternel qui parle. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il vive. Ça, c'est ce qu'il y a au plus profond du cœur de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons fêté Noël dernièrement. C'est pour cette raison, c'est dans ce seul but que Jésus est venu. Jean 3, 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est tout le but du message de Noël, le centre de Noël, c'est la venue de Christ sur terre pour sauver les pécheurs. Mon frère, ma sœur, nous devons avoir conscience de cela. Nous devons demander à Dieu de nous donner ce fardeau pour ceux qui se perdent, afin de ne pas devenir finalement un club de croyants très pieux qui ensemble se réjouissent d'être sauvés. Et que ferons-nous de ceux qui ne le sont pas? Bien-aimés, ce matin, nous avons une mission, et c'est mon troisième point, notre mission. Jésus est clair, et vous la connaissez. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Marc 16. Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Deux grands points dans cet appel. Allez, annoncer la bonne nouvelle. Deuxièmement, faire des disciples. Et j'aimerais vous dire que l'un ne va pas sans l'autre. Nous ne pouvons pas nous contenter d'annoncer la bonne nouvelle en oubliant de faire des disciples. Si nous emmenons des gens à Christ, des hommes et des femmes à Christ, nous devons ensuite avoir le souci de leur enseigner ce que Christ a dit afin qu'eux-mêmes le mettent en pratique et à leur tour deviennent des disciples. Vous avez été sauvés pour sauver. Vous avez été sauvés pour annoncer une bonne nouvelle. Et c'est la bonne nouvelle du salut. Bien-aimés, ce matin, il ne s'agit pas de gagner seulement des hommes et des femmes à Christ et ensuite de les laisser livrer à leur sort. À quoi nous servirait-il d'amener tous les Mulhousiens ici dans ce lieu si après nous les abandonnons à leur propre sort? Il nous a été dit ce matin, non seulement d'annoncer l'évangile, mais il nous a été dit également de nous aimer les uns les autres. D'avoir le souci les uns des autres. De nous aider les uns les autres. Faire de toutes les nations des disciples n'est pas seulement la responsabilité d'un pasteur ou d'une équipe pastorale. Faire des disciples est la responsabilité de chacun et de chacune d'entre nous. Permettez-moi de revenir au premier point, annoncer la bonne nouvelle. Quelle est la première des choses qui eut lieu après la Pentecôte? L'Esprit de Dieu descendit sur eux. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la plus grande et la première des grandes évangélisations que les disciples feront. C'est la première. C'est la première et la plus grande. Le Saint-Esprit vous a été donné non seulement pour que vous puissiez louer en langue et vous édifier vous-même, selon ce que Paul dit aux Corinthiens. Le Saint-Esprit vous a été donné pour que vous soyez des témoins. Le Saint-Esprit ne vous a pas été donné pour que vous puissiez rester dans votre fauteuil à la maison à parler en langue au chaud en regardant la cheminée et un film à la télévision. Le Saint-Esprit vous a été donné afin que vous sortiez, afin que je sorte et que j'annonce à ce monde qui se perd une bonne nouvelle. Est-ce sans risque? Non. Non, ils furent persécutés, ils furent malmenés. Je bénis Dieu, nous avons une équipe qui est partie en Chine, ils entrent là, ils rentrent, ils reviennent. Et je remercie le Seigneur pour ce qui les anime. Je prie Dieu qu'au milieu de nous, la flamme s'allume dans chaque cœur pour tous ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous avez reçu le Saint-Esprit pour aller. Je vois des personnes me dire, je veux les dons, je veux la guérison, je veux le miracle. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Il n'y aura pas les dons si nous ne rentrons pas dans la mission que Dieu nous a confiée. Il équipe ceux qui travaillent, il n'équipe jamais ceux qui ne font rien. Frères et sœurs, Paul dit, si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. Être disciple de Christ implique confesser Christ publiquement. Très souvent, nous employons ce texte uniquement pour les appels. Les gens viennent, ils lèvent leurs mains, ils arrivent, on leur dit, confesse Jésus de ta bouche. Oui, je crois au Seigneur Jésus, on prie pour eux, amen, tu es sauvé. Mais non! Si tu confesses Jésus de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Confesser Jésus, c'est où je suis, où je me trouve. Je vais confesser son nom merveilleux et je vais dire à qui j'appartiens. C'est cela, confesser le nom de Jésus. C'est pas seulement dire je suis chrétien, je vais à la porte ouverte. Et alors, ça ne te sauve pas d'aller à la porte ouverte. Celui qui te sauve, c'est Jésus. Que nous ayons un lieu où nous rassembler, où le louer ensemble, ça c'est important. Mais notre bouche doit témoigner de celui en qui nous avons reconnu le Sauveur et qui seul peut sauver. Que dira Jésus lui-même? Et que sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Je voudrais tout sauf qu'un jour mon Sauveur ait honte de moi. Mon frère, ma sœur, c'est sérieux, c'est extrêmement sérieux. Il ne s'agit pas de mettre de la pression ou de créer une quelconque culpabilité. Il s'agit simplement de rester en phase avec ce que nous croyons. Si tu confesses Jésus de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui devant le Père dans les cieux. Combien ai-je rencontré d'hommes et de femmes qui se disent croyants et qui ont honte? On se dit croyant, mais on a honte d'en parler. Vous savez, la foi, c'est quelque chose de personnel, de privé, d'intérieur. Ah oui, mais ce n'est pas tout à fait ce que Jésus dit. Jésus dit que cette bonne nouvelle, elle a été donnée pour que nous l'annoncions. Vous avez vu ce film, et même si le son était mauvais, l'image était suffisamment claire pour nous aider à comprendre que nous sommes devant des choix. D'ailleurs, cet homme qui parle là au maître de quartier lui dit « Je suis le choix ». Et nous allons tous, même en tant que chrétiens, choisir. Que vais-je faire? Comment vais-je réagir? Pourquoi l'annonce de l'évangile est-elle aussi capitale? Pourquoi? Écoutez ce que Paul dit. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et maintenant, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Frères, sœurs, le message est clair. Quiconque invoquera son nom sera sauvé. Mais comment l'invoqueront-ils si personne ne leur en parle? Comment connaîtront-ils Jésus si le peuple de Dieu, le Corpus Christi, ce beau bateau, eh bien se contente simplement de faire la fête ensemble? Comment sauront-ils? Il y avait sur ce bateau suffisamment de canaux pour secourir chaque personne. Et je crois que l'Église a suffisamment de moyens pour annoncer l'Évangile à chaque personne. Mais le choix sera, vais-je le faire ou vais-je me taire? Paul dira, si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Écoutez bien ce qu'il dit. Car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. En d'autres mots, face à la gravité de la situation, face à la gravité de ce que mon silence peut engendrer, je ne peux pas me taire, je dois parler. Lorsqu'on ne secourt pas une personne qui est en danger, la loi vous condamne et me condamne pour non-assistance à personne en danger. Mais mes bien-aimés, nous prendrons conscience le jour où nous quitterons cette terre de l'importance qu'avait l'annonce de l'Évangile. Et je souhaiterais que mes voisins et mes voisines soient sauvés. Je ne peux que leur annoncer l'Évangile. Ensuite, ce n'est plus ma responsabilité, si ce n'est que je dois vivre en fonction de l'Évangile. Parce que certains annoncent l'Évangile et quand vous les regardez vivre, ça vous fait peur. Vous avez tous sauf envie de leur ressembler. Non, annoncer l'Évangile, c'est vivre l'Évangile. C'est journellement vivre l'Évangile. À l'occasion des fêtes de Noël, je me suis dit, Seigneur, Noël, c'est l'occasion d'annoncer l'Évangile à mes voisins. Et sans entrer dans les détails, c'est pas important, mais j'ai été... inspiré pour faire simplement ce qu'il faut pour que chacun de mes voisins, j'en ai dans les 35 boîtes aux lettres, hein, pour que chacun d'entre eux reçoive d'une manière ou d'une autre l'Évangile. Parce que pour moi, c'est capital. Parce que je ne veux pas un jour répondre de leur sang. Parce que je désire les voir sauvés. Ils ont autant de valeur que chacun d'entre nous. Paul le vit comme une nécessité. Il dira, c'est en effet une obligation qui m'est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Nous ne pouvons pas honnêtement dire que nous sommes chrétiens en nous taisant. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons le Christ et que nous aimons notre prochain en nous taisant. Comment puis-je aimer mon prochain et me taire sur une réalité aussi importante que celle-là ? Face à cet enjeu, Paul dit à Timothée, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ » dans 2 Timothée 4, qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. En toute occasion favorable, favorable ou non. Moi, je me souviendrai toujours de mon frère Bertrand qui me racontait qu'en montant dans un avion, il avait une guitare et l'hôtesse de l'air lui dit mais vous pourriez chanter quelque chose aux passagers. Bon, béni soit Dieu que ça ne se soit pas fait. L'hôtesse de l'air ne connaissait pas Bertrand, mais c'est sûr que ça aurait été un grand moment de frisson. Et Bertrand, sur le moment, a été saisi de crainte. Et Bertrand, combien je te comprends ? Combien je te comprends ? Pas seulement par le fait de chanter, mais il a tout d'un coup parlé à tous ceux qui sont dans l'avion. Alors il a décliné l'invitation, en plus de ça, la guitare se désaccordait avec l'altitude. Donc il avait une excuse valable. Mais aux yeux de Dieu, ça ne le rendrait pas lavable. Hein. Il fallait quand même qu'il reprenne le flambeau. Et quand il était assis, il me dira, tout d'un coup l'Esprit de Dieu m'a parlé. Il me dit, mais pourquoi t'as raté une telle occasion ? Alors quand l'hôtesse est repassée, il dit, excusez-moi madame, pourrais-je simplement parler, raconter une histoire à ces gens ? Elle dit, ben oui, bien sûr, monsieur. Et là, il a eu le micro et il a pu annoncer l'Évangile pendant combien de temps ? 5 minutes ? C'était l'évangélisation la plus haute. Et vous savez ce qui est extraordinaire ? Personne n'a quitté la salle. Personne. Hein ? Ils sont tous restés. Mais moi, j'applaudis ça. Moi, je me réjouis. Je me dis, waouh ! Fallait oser ! Combien se serais-tu ? Fallait oser. Frères, sœurs, que le Seigneur nous libère de la crainte. Soyez fiers d'être chrétiens. Soyez fiers d'être enfants de Dieu. Soyez fiers d'être sauvés. La Bible dit, vous êtes ambassadeurs. Hey, t'as déjà vu un ambassadeur qui est comme ça, qui a honte de son pays ? Bon, certains pourraient l'avoir, hein ? Mais nous pas d'une autre. T'as déjà vu un ambassadeur ? Vous êtes ambassadeur de où ? Je préfère pas en parler. Vous trouvez que c'est un ambassadeur ? Un ambassadeur est fier. Écoutez, Paul dit aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Es-tu un ambassadeur de Christ ? Représentes-tu dignement son royaume ? Parce qu'un ambassadeur représente son royaume, donc dans sa manière de parler, dans sa manière d'être, il représente son royaume. Il parle, il invite à visiter en son royaume. Nous devons avoir ce désir d'annoncer l'évangile de ce merveilleux royaume. Par quel moyen ? Moi, je souhaiterais que vous partiez ce matin tous en feu et que la prochaine fois qu'on tourne le film Corpus Christi, il n'y ait personne à l'intérieur, mais tout le monde sur le pont. Parce que le problème, c'est que sur le pont, on a appelé. Et ce matin, j'appelle. Et je dis, il y a un tas de gens qui se perdent. Vas-tu rester à l'intérieur? Vas-tu descendre? Allons-nous pouvoir faire ce que je ne pourrais et ce que nous ne pourrions à quelques-uns jamais faire? Frères et sœurs, le premier moyen, je voudrais vraiment que vous soyez enflammés ici, mais également tous les internautes, chers internautes, où que vous soyez, je souhaiterais que vous ayez le feu à Paris, que vous embrasiez Paris. En Algérie, au Maroc et partout d'où l'on nous suit, je souhaiterais qu'il y ait ce feu. Premier moyen, c'est notre témoignage personnel. Et c'est par ce... Dites-moi, ce matin, qui est venu au Seigneur par une affiche? Une personne au fond, merci. Deux personnes. Trois. Qui est venu par un traité? Une, deux, trois, quatre, quelques mains en plus. Okay. Qui est venu par, Internet? Non mais c'est important. Hein. Qui est venu par la radio? Une personne. Deux, trois. Qui est venu par la télé? C'est ailleurs qu'il lève la main. Maintenant, qui est venu par le témoignage personnel d'un voisin, d'un ami, d'un frère, d'une sœur? Levez voir la main. Voilà. Mon frère, ma sœur, c'est toi qui seras le vecteur essentiel. C'est toi qui seras le vecteur premier. C'est toi qui vas annoncer l'évangile à ton voisin, à ta voisine. C'est toi qui seras un témoin là où tu es. Peux-tu le forcer à venir? C'est pas le but. Vous croyez que Jésus veut de quelqu'un de forcé? Vous croyez que Jésus voudrait de quelqu'un qui a été obligé à venir? Jamais. Deuxième chose, nous désirons annoncer l'évangile au loin, aller par tout le monde. Nous avons des missionnaires au Sénégal, nous avons des pasteurs en Algérie. Il y a maintenant une personne qui se trouve en Chine. Nous voulons prier pour eux. Est-ce que vous priez régulièrement pour eux? Frères et sœurs, ils partent pour nous. Ils partent d'ici, ils ont besoin de notre soutien, ils ont besoin de nos prières, ils ont besoin de nos encouragements, ils ont besoin de tout cela. Combien pensent aux missionnaires? Combien pensent encore à Eric Thaumieux, à Issouk? Combien ils pensent encore? Levez voir la main ceux qui y pensent. C'est trop peu, frères et sœurs. C'est trop peu. Il faudrait que toutes les mains soient levées. Combien pensent à notre sœur en Chine? Levez voir la main. C'est bien, mais c'est trop peu. Combien pensent à mes frères en Algérie? C'est bien, mais c'est toutes les mains qui devraient être levées. Parce que vous avez à cœur ceux qui sont au loin. Combien pensent aux orphelinats en Inde? Le frère Komalapali qui annonce l'évangile par les orphelins. Combien? Frères et sœurs, il est temps de se réveiller. Je ne voudrais pas que l'un d'entre nous ait des regrets à la fin. Permettez-moi maintenant une remarque. Évidemment, nous continuerons par le biais de la radio et nous croyons que ce sont des moyens que nous n'aurons jamais. Il y a plus de personnes que celles qui ont levé la main, qui sont touchées par la radio dans ce pays. Par le net, nous recevons régulièrement des messages de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Il y a bien sûr d'autres moyens que Dieu permet que nous employions. Mais ce que je voudrais dire ce matin, et je crois que c'est important. Chacune des manières d'annoncer l'évangile sera différente. Chacune. Pour certaines personnes, la seule manière d'annoncer l'évangile, c'est une prédication avec un appel après. Non, mon frère. Tu n'annonceras pas l'évangile à la radio comme tu le fais à la télévision. Tu ne l'annonceras pas sur le net comme tu le fais dans une salle. Tu ne l'annonceras pas dans la rue comme tu pourrais le faire par les affiches. Tu ne l'annonceras pas à des jeunes gens comme tu l'annonces à des personnes âgées. Ce sera chaque fois différent. Écoutez ce que Jésus dit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et le dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Frères et sœurs, il y a différentes manières d'annoncer l'évangile. Ne soyez pas choqués quand elle n'est pas comme vous le pensiez. Vous savez, quand quelqu'un se noie, il n'est pas difficile sur la couleur de la bouée. J'ai rarement vu quelqu'un se noyer en disant « je ne la prends pas, j'en voulais une rose ». Eh bien, ben oui. Rarement. Je ne l'ai jamais vu par ailleurs. Quelle que soit la forme, ne confondez pas le fond et la forme. Le fond, c'est l'écriture, c'est la parole et ça restera toujours la même. La forme, elle, peut changer. Les proverbes disent « l'homme sage gagne des âmes ». Ceux qui sont sages savent comment annoncer l'évangile aux différents types de personnes qu'ils rencontrent. Dans la maison de retraite, j'irai jamais faire un rap. Mais j'irai pas non plus dans les quartiers difficiles avec une soprane. Ne vous trompez pas. On a ici un rassemblement The Rencontre. Évidemment, si tu regardes dedans dans la salle quand il y a The Rencontre et que tu as un certain âge, tu te dis « Yeah, le monde est entré dans l'église ». Non, le monde n'est pas entré. On a adapté la forme aux jeunes gens qui viennent. L'autre jour, je suis en Suisse, une jeune femme vient me voir. Elle me dit « Pasteur, je voulais vous remercier de tout mon cœur parce qu'en venant à The Rencontre, j'ai retrouvé la foi. Je m'étais détourné de Christ, j'étais loin de lui, je suis venu à cette rencontre, j'étais touché, j'étais bouleversé, j'ai retrouvé la foi. » Et à côté d'elle se trouvait un jeune homme, il me dit « Et moi pasteur, je vous remercie, non seulement j'étais embrasé à cette rencontre, mais là j'ai découvert ma femme, on s'est mariés tous les deux et on sert dans cette église maintenant. » Je bénis Dieu pour tous les organisateurs de cette rencontre. Mais ce n'est pas seulement cette rencontre. LPG qui va dans une maison de retraite, des frères et sœurs, je sais que des frères et sœurs vont dans des maisons de retraite, sont dans des squares, annoncent l'évangile. Par tous les moyens, l'évangile est annoncé. Vous savez, nos jeunes ont fait des spectacles cette année passée. Et parfois je suis surpris quand il y a un spectacle des jeunes, il y a moins d'âgés dans la salle. C'est drôle. Vous êtes où? Vous devriez être là, les soutenir dans la prière. J'aimerais vous y inviter. Chaque fois ça a été excellent. Mais j'ai compris une chose, de toute façon, quoi que vous fassiez, si vous n'avez pas compris que l'enjeu c'est le salut des âmes, vous serez toujours choqués. Écoutez ce que Jésus dit. Dans Luc 7, 33, il dit « Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Quoi que tu fasses, tu auras toujours quelqu'un pour ne pas être d'accord avec toi. Mais je vais vous dire ce qui me choque réellement. Moi, ce qui me choque réellement, c'est pas quelqu'un qui, pour annoncer l'évangile, fait un rap, un slam ou tout ce que vous voudrez. Ou bien qui chante avec une belle chorale ou qui fait une belle scène. Non, moi, ce qui me choque vraiment, c'est quand une église ou un chrétien n'annonce pas l'évangile et se tait. Ça devrait nous outrer. Ça devrait nous outrer. Et voyez-vous, le malheur, c'est parfois on n'est pas d'accord avec, mais non seulement on n'est pas d'accord, mais on va lutter contre, frères et sœurs. Non seulement nous ne devons pas lutter contre, mais nous devrions être choqués par ce qui est choquant, c'est quand des églises et des croyants se taisent et ne parlent plus de Jésus. Ce sera l'axe sur lequel nous remettrons l'accent cette année. Je remercie pour tous ceux qui nous soutiennent, pour tous ceux qui donnent des dons, pour tous ceux qui prient pour nous. Je remercie Dieu pour tous ceux qui vraiment sont investis. Et j'aimerais dire, tout à nouveau, cette année, l'évangélisation sera une des axes principales de l'Église. Ça l'est depuis le début, je veux garder cela avec toute l'équipe. Nous voulons que le plus grand nombre entende parler de Jésus. Et je voudrais remercier tous ceux qui est d'accord avec cela, qui est d'accord avec cela. Levez-vous la main, tous ceux qui disent, moi aussi je veux me joindre à cela, moi aussi je veux soutenir cela. J'aimerais vous remercier de tout mon cœur et dire, que ceux qui sèment ensemble moissonneront ensemble. Ceux qui sèment ensemble moissonneront ensemble. Deuxième point, j'ai plus de temps, le temps est passé, mais faire des disciples, ça c'est un vaste programme. ça prend souvent plus de temps. Jésus a investi 3 ans et demi. 3 ans et demi, il va se consacrer. 3 ans et demi, il va investir dans 12 hommes, dont un va le renier et un va le trahir. Mais il n'a pas arrêté de croire que la meilleure manière de faire continuer le message de l'évangile, c'était d'investir dans des hommes. Et c'est ce que nous voulons faire, investir dans des hommes et des femmes. Il y a une formation qui a été mise en place. J'aimerais vraiment remercier Jean-Marie avec son épouse pour leur investissement. Des gens sont formés. Pour certains, vous dites, ah mais oui, on les voit recevoir un diplôme, et après quoi? Et après, ils sont au travail, je peux vous le promettre. Et après, ils servent. La majorité d'entre eux est investie dans un domaine ou dans un autre et travaille de tout son cœur. L'autre jour, nous recevons un email d'un pasteur qui nous dit, nous avons des équipes maintenant de 3-4 personnes qui sont envoyées vers des églises plus petites qui ont besoin d'aide. De ces équipes, ce sont des gens qui ont été formés. Ils vont, ils arrivent sur place, font une évangélisation par exemple dans la rue l'après-midi pour les enfants, le soir s'occupent du groupe de jeunes, le matin annoncent l'évangile et reviennent. Le résultat, le pasteur nous écrit, nous avons été bénis par cette équipe qui est venue, nous avons été encouragés, l'église a retrouvé de la motivation pour annoncer l'évangile et ils sont au travail. Mais j'aimerais dire également merci à tous les moniteurs d'école du dimanche qui investissent dans des enfants, qui croient que cela vaut la peine, qui annoncent l'évangile patiemment. Vous croyez que c'est toujours simple d'être avec 40 enfants à 3 dans une salle là-bas derrière? Hello! D'ailleurs, s'il y a des candidats, ça serait bien qu'on en ait plus encore, n'est-ce pas Bertrand? Tous ceux qui se disent, moi aussi je veux investir. Moi je bénis Dieu pour tous ceux qui se sont occupés de mes enfants. Merci à vous tous qui avez eu mes enfants. Et ça n'a pas été les plus simples toujours. Merci au Seigneur pour ceux qui se sont occupés de moi quand j'étais enfant. Ils ont pleuré. Ils se sont lamentés. Pourtant j'étais gentil, mais ils n'arrivaient pas à le voir, vous voyez. C'était très profond, c'était caché tout au fond de moi. Mais je bénis Dieu pour tous ceux qui ont pris du temps avec moi. J'aimerais honorer les moniteurs, Est-ce qu'on pourrait les applaudir tous? Parce que ça, c'est un travail. Je voudrais vraiment de tout cœur, vous remercier. Il y a bien sûr les groupes de maison. Nous désirons qu'au travers des groupes de maison, des discussions que vous avez, des échanges que vous avez, que vous grandissiez, que vous vous affermissiez, que vos racines deviennent plus profondes, afin d'être des disciples. Frères et sœurs, nous ne voulons pas des paroissiens, simplement. Nous ne voulons pas simplement des membres d'église qui chauffent une chaise. Nous voulons des hommes et des femmes qui ont une passion pour Jésus-Christ. Des hommes et des femmes qui ont une passion pour Jésus. Dis à ton voisin, je souhaite que tu aies une passion pour Jésus. Herr Springenswald, Vollfier, une passion pour Jésus, un amour pour les perdus. Chers amis internautes, de tout cœur, nous continuerons à annoncer l'évangile par Internet. Faites connaître le site aussi loin que vous le pouvez. Nous voulons que le plus grand nombre connaisse Jésus. C'est notre désir et je remercie vraiment chacun et chacune. Formez des disciples. Si vous n'êtes pas dans un groupe de maison, rejoignez un groupe de maison. Rejoignez, il y a toutes les adresses à l'arrière. Et quand il y a une centaine de groupes, maintenant 90 ou 100, quand il n'y aura plus assez de groupes, on les multipliera. Et ce qui serait formidable, c'est que chacun atteigne une telle maturité qu'un jour chacun dise, j'ouvre ma maison, je commence un groupe de maison moi aussi. Hello! Annoncer l'évangile, former des disciples. Nous voulons continuer à investir dans ce sens-là tout au long de l'année 2011. Alors en conclusion, dis à ton voisin, nous allons évangéliser et former. Dis-le lui, nous allons évangéliser et former. Nous allons évangéliser et former. Et peut-être que vous venez de loin ou d'ailleurs et vous dites, mais chez moi il n'y a rien. Vous savez, écoutez. Il y a certaines personnes qui me disent, mais dans ma région, il n'y a rien. Chers amis internautes, souvent vous nous envoyez, vous nous dites, dans ma région, il n'y a rien. Écoutez, il y a une fois eu deux représentants. C'était des vendeurs de chaussures. Tous les deux partirent à cette époque-là, on remonte à 40-50 ans en arrière, partir en Afrique pour la promotion des chaussures de leur usine. Arrivé là-bas, le premier envoie un télégraphe. Il dit, patron, catastrophe, ici, personne ne porte de chaussures. Le second lui écrit, patron, extraordinaire, envoyez des bâtons, ici, personne n'a de chaussures. Arrête de dire, chez nous, il n'y a rien. Commence à dire, ça c'est formidable, s'il n'y a rien, c'est pour que moi je commence. Hello, normalement ça devrait être un amen et les plaques qui bougent en haut. Les internautes, normalement les écrans devraient devenir rouges tellement vous réagissez. Ouais, il n'y a rien. Quelle occasion d'ouvrir ma maison. Quelle occasion d'inviter mes amis et de commencer quelque chose. L'achèvement des travaux de l'église fait partie de la continuité, évangéliser, former. Je n'ai pas encore d'autorisation, mais nous l'aurons. Je termine. Peut-être que nous pourrions fermer nos yeux. À chacun de vous, ici présents ou sur le net, à vous tous qui nous soutenez par la prière, par votre investissement en travail, en présence, en discipola, entre guillemets bénévolat si vous préférez, par vos dons, vos offrandes. J'aimerais dire merci du fond de mon cœur. Merci également à tous nos frères et sœurs internautes qui nous soutiennent par leur prière, qui nous soutiennent également par leurs dons. Que Dieu vous bénisse au-delà de toute espérance. J'aimerais, alors que nous sommes là, remercier Papa Jean pour la confiance qu'il nous fait depuis des années. Remercier Bertrand pour son travail, Claude pour son travail, Jean-Marie pour son travail, Christian pour son travail, pour leur enthousiasme, leur service sans limite. Je voudrais, devant vous tous, remercier Dieu pour Eric Toumieux, pour notre sœur qui est en Chine et que nous aimons de notre cœur. Pour Issouk, l'épouse d'Eric, pour leurs enfants, mais également pour Jokel, pour Salah, pour Tarek, pour Nordine, pour tous ces pasteurs de brousse, pour mon frère qui est en Inde, mon frère Komanapali, pour tous ces enfants et pour tous ceux qui soutiennent ce travail. J'aimerais dire merci au conseil d'administration, au conseil d'église qui nous ont soutenus dans ce que nous avons entrepris et qui continuent à le faire. Et j'aimerais vous laisser pendant que mon frère commence à jouer un cantique. J'aimerais vous laisser avec ces merveilleuses paroles. Écoutez-les, recevez-les comme un encouragement pour l'année à venir. Gardez-les, serrez-les au fond de votre cœur. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Daniel dira, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Et permettez-moi de terminer en vous rappelant que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Qu'ils sont beaux ce matin. Aux yeux de Dieu, les pieds de ceux qui annoncent une bonne nouvelle. Ils brilleront comme les étoiles. Ceux qui auront enseigné la multitude, ceux qui auront refusé de rester dans leur sécurité là sur le bateau, ceux qui auront accepté de sortir, ceux qui, sous prétexte religieux, d'être séparés avec le monde, n'ont surtout pas voulu se souiller en restant entre eux. Que Dieu soit béni pour tous ceux qui ce matin décident de descendre sur le pont. Tous ceux qui décident de sortir dans la tempête, ceux qui décident de dire Seigneur, j'ai compris que je suis moi aussi appelé à annoncer la bonne nouvelle pour qu'ils soient sauvés. que ceux qui désirent s'engager. Pendant que mon frère reprend, et qui désirent renouveler leur engagement ce matin, en disant, Seigneur, je veux être un de ceux-là. Je m'adresse plus à ceux qui le veulent vraiment au fond de leur cœur. Ne vous levez pas pour... Vous savez, quand vous vous levez comme ça, c'est grave, parce que c'est devant Dieu que vous vous levez, pas devant moi. Moi, je quitte ce lieu, j'oublie aussitôt combien et qui était debout. Mais lui sait que ceux qui ce matin disent, Seigneur, face à l'urgence du message, comme Paul, je veux dire, il m'est interdit de me taire. Malheur à moi si je me tais. Seigneur, je veux moi-même ce matin le faire par amour pour ceux qui se perdent. C'est l'amour qui doit vous motiver. C'est l'amour pour Dieu qui vous a tant aimé lui-même, qu'il vous a donné son Fils, qu'il nous a donné son Fils. C'est l'amour qui doit nous motiver. Que ceux qui désirent lui dire ce matin, je renouvelle mon engagement, se lèvent à leur place. Vous vous levez devant lui. Et vous allez d'abord prier simplement dans votre cœur. Pendant que mon frère continue à jouer, pendant que les choristes viennent, nous voulons ensemble lui dire, Seigneur, nous voici pour te servir. Frère, sœur, que votre décision ce matin soit suivie d'une action. Que votre décision se concrétise chaque jour. Vous êtes et je suis, nous sommes ensemble ambassadeurs de Christ. Jamais ambassadeur n'a eu honte de son royaume, jamais. Jamais. Soyez fiers d'être qui vous êtes en Christ. Soyez fiers de votre Sauveur. Restez humbles dans nos cœurs, oui, et en même temps heureux de le servir. Dites au Seigneur dans quel domaine vous devez encore changer. Avez-vous parfois honte? Avez-vous parfois peur? Dites-le lui. Il ne vous le reprochera pas. Seigneur, tu vois mes frères, mes sœurs qui sont debout ce matin. Tu vois l'Église qui est là debout devant toi, c'est l'Église qui s'est levée. Et qui désire te dire à la question qui enverrai-je, envoie-nous Seigneur. Envoie-nous Seigneur, nous ne voulons pas rester à l'intérieur. Nous ne voulons pas rester confortablement installés. Nous voulons sortir, oui il y a des prises de risque, oui. Oui nous risquons d'être mouillés. Oui, nous risquons d'être pris dans le tourment, dans la tempête, mais l'enjeu en vaut la peine. Seigneur, mets à nouveau ce fardeau pour les perdus sur le cœur de ceux qui ne l'auraient plus, qui ont perdu la vision. Seigneur, garde-nous dans cette vision où nous nous souvenons, nous avons été sauvés un jour, afin que nous-mêmes nous puissions sauver aujourd'hui en annonçant la bonne nouvelle. Comment invoqueront-ils celui de qui ils n'ont pas entendu parler? Nous voulons en parler. Pouvez-vous donner la main un instant à votre voisin, à votre voisine? Pouvons-nous prier ensemble, tous en tant qu'Église? Tous en tant qu'Église. Pourriez-vous, avec moi, commencer à lui dire, Seigneur, nous voudrions que cette année, des hommes et des femmes qui ne te connaissent pas, dans ce lieu, soient sauvés. Mais pas seulement dans ce lieu, sur le net, que des hommes et des femmes par la radio, que des hommes et des femmes par la télévision, que des hommes et des femmes par tous les moyens que tu nous donnes, et en particulier par notre témoignage personnel, soient sauvés. Est-ce qu'on pourrait élever notre voix ensemble, commencer à prier? Seigneur, nous te le demandons. Nous te prions pour le salut des perdus. Te prions pour le salut de ceux dans nos familles qui ne te connaissent pas encore. Te prions pour le salut de ceux qui, eh bien, dans notre voisinage, parmi nos collègues de travail, parmi, Seigneur, eh bien, ceux que nous rencontrons, que nous fréquentons, parmi ceux peut-être que nous ne rencontrons qu'une fois, qui ne te connaissent pas, Père, permets que nous soyons lumière du monde et sel de la terre. Permets que l'amour qui coule du trône, puisse couler de notre cœur vers eux. Père, et une fois qu'ils t'ont rencontré, aide-nous à faire d'eux des témoins. Aide-nous à faire des disciples. Aide-nous à leur enseigner simplement ce que tu nous enseignes, afin que nous le pratiquions ensemble. Nous te le demandons. Seigneur, je place l'Église sous ton sang précieux. Et je te prie qu'en tant qu'Église, Seigneur, nous nous attachions à ces deux directions, évangéliser et former. Père, que vraiment nous soyons inscrits dans cette volonté d'annoncer et de former. Que ce lieu soit un lieu où de nombreuses personnes trouvent le salut en Jésus-Christ. Ici, dans cette région d'Alsace, mais également, Seigneur, en France, dans, Seigneur, cette Allemagne voisine, cette Suisse voisine, la Belgique qui n'est pas loin. Père, permets-nous d'être des témoins, mais des témoins également loin, au Sénégal. Père, des témoins au Sénégal, des témoins en Algérie, des témoins en Chine et des témoins partout où tu nous enverras, partout où tu nous donneras l'opportunité d'aller. Père, nous voulons être des témoins. Nous bénissons toutes les églises de la région mulhousienne et nous te prions qu'ensemble nous soyons lumière du monde et sel de la terre. Père, nous bénissons toutes les églises dans ce pays en te priant qu'il n'y en ait aucune qui reste silencieuse. Mais qu'elles ouvrent leur bouche, que les croyants ouvrent leur bouche, que les disciples ouvrent leur bouche et annoncent cette bonne et merveilleuse nouvelle. À ton nom seul revient l'honneur, la louange et la gloire au siècle des siècles. Sois béni, Père Saint. Merci d'un cœur reconnaissant.